RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes sur RMC et RMC Story. Vous êtes avec nous, bien sûr, en direct comme tous les jours. Vous suivez les GG avec Antoine Dier, ce consultant juridique, Fatima Idbounoua, la professeure de français. Nous sommes avec Abel Boyi, l'éducateur. Quelle heure est-il? 11h02. Juste avant d'accueillir nos invités, je vous rappelle que vous avez les vacances Bellambra. Vous avez un quart d'heure encore pour vous inscrire, pour envoyer vacances par SMS au 732-16. Bellambra, l'un des 45 clubs et hôtels, est à votre disposition. Mer, montagne, campagne, vous choisissez. C'est un séjour de 2000 euros. C'est un tout compris premium. Vous avez juste à envoyer vacances par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. On accueille nos invités.
RMC, face aux grandes gueules.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oiseaux sauvages. Elles s'en allaient.
Nous sommes avec Géraud de la Tour et Pierre-Alexandre Mortemart de Boisse. Ils ont fondé en 2021, les deux copains, ils ont fondé le Canon Français qui aujourd'hui se retrouve cible de toutes les critiques. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Alors,
bonjour.
Géraud, c'est le barbu. Pierre-Alexandre est à côté. Vous n'avez pas des têtes de nazis. Mais si j'en crois certains, vous organisez des fêtes de néo-nazis, c'est ça?
Mais c'est... Il semblerait en effet, quand on écoute ou qu'on lit tout ce qui est écrit sur nous. Et c'est assez scandaleux, assez grave, parce que les conséquences sont aussi extrêmement graves.
Voilà. Donc on dénonce. Il y a eu quoi comme conséquence?
La campagne de harcèlement que nous subissons depuis des mois a été notamment reprise par des élus de la République qui font pourtant partie de l'arc républicain. Et donc on trouve ça extrêmement grave, parce que derrière, en fait, c'est des centaines de messages de menaces de mort. C'est nos fournisseurs, les artistes qui se font menacer, attaquer. On leur intime l'ordre de ne pas travailler avec nous, sinon on va les empêcher de travailler derrière. On a récemment un boulanger par exemple qui reçoit des menaces tous les jours, des mauvaises notes sur sa page. Donc en fait, on s'attaque à son gagne-pain juste parce qu'il a fourni du pain à un événement.
Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le Canon Français? D'ailleurs, ce soir, il y a une soirée à Montélimar. C'est quoi précisément?
C'est des banquets géants où tout le monde peut s'inscrire, tout le monde est le bienvenu. C'est des fêtes.
Ça coûte combien?
Ça coûte 80 euros. Il y a entrée, plat, fromage, dessert, boisson inclus. C'est vraiment des grandes fêtes.
C'est un banquet immense.
C'est un immense banquet. Alors au départ, on a commencé avec des petits banquets. Mmh. Bon, maintenant, avec notre succès, c'est devenu des très grands banquets. On peut aller jusqu'à plus de 4000 personnes dans les plus grandes salles.
On boit, on mange, on chante.
On boit, on mange, on chante, on se retrouve, on danse. Il y a beaucoup de danse, beaucoup de musique. C'est pour ça qu'on parlait aussi des artistes qui sont pris à partie dans ce débat qui est devenu hystérique. Et nous, on aimerait que ça se calme, que ça soit un appel au calme.
Il y a un journaliste de France Inter qui était présent à Caen, c'est ce qu'il dit, lors d'un banquet du Canon Français, pour réaliser un reportage en micro caché. Il dit qu'il a été témoin de gestes qui s'apparentent à des saluts nazis et des propos racistes à l'intérieur de ce banquet normand.
Alors, si ça s'apparente et qu'il n'en a pas la preuve, moi je trouve ça très grave d'aller accuser une personne de ce genre de gestes. Nous, évidemment, on condamne tout ce qui ne respecte pas la loi et les chartes de la notre charte à nous. On en appelle évidemment au bon sens citoyen, etc. Mais les accusations qu'il a portées sur cette personne sont extrêmement graves, puisqu'il n'en a pas la preuve. Il aurait dû aller la confronter, aller lui demander quelle était la signification de son geste. Mais il me semble que les bras levés pendant un moment de liesse et de la Marseillaise, je pense que c'est plutôt un moment de danse et de fête ou de liesse que
donc ça veut dire que dans tous les stades il y aurait des saluts nazis.
Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que le Canon Français c'est de droite?
Non, le Canon Français c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous, on le maintient, on ne bougera pas. Nous, on n'a pas du tout envie de politiser une fête populaire. C'est dramatique de vouloir politiser du fromage, de la charcuterie, des produits du terroir, de la viande, quelle qu'elle soit, c'est de la fête, c'est dramatique.
Est-ce que c'est un banquet de blancs patriotes français?
Non, non, nos billetteries, elles sont ouvertes à tous. N'importe qui peut s'inscrire. On a le droit de ne pas y aller comme tout le monde a le droit d'y aller. Et on trouve ça vraiment dommage, en fait, qu'on vienne ajouter de la tension. On considère que la société est suffisamment tendue pour venir ajouter de la crispation, de venir imposer.
Si je regarde les photos, votre public, il est très blanc, il est bleu-blanc-rouge, il a du béret.
Il est franchouillard, quoi.
Il est franchouillard, mais ça, vous allez retrouver ça dans énormément de fêtes populaires.
C'est encore autorisé d'être blanc et franchouillard, pardon.
Non, mais c'est-à-dire que nous, on va aussi dans d'autres festivals, parce qu'on a aussi notre producteur qui en organise. Enfin, il y a plein de fêtes à la campagne où il y a une majorité de blancs. Enfin, je veux dire, enfin, je pense que réduire un événement à la couleur de peau des participants, en fait, c'est gravissime.
Ça nous intéresse pas, surtout. Ça nous intéresse pas. Les gens s'inscrivent, les gens qui viennent, ce sont les gens qui viennent.
Ah oui.
Ça s'arrête là. Je pense que c'est dommage vraiment de rentrer dans ce genre de considération parce qu'encore une fois, on vient un peu imposer les débats politiques et idéologiques à des simples fêtes. Qui peuvent
s'appeler à tout le monde. C'est vous qui avez créé le canon français, c'est ça ?
C'est ça.
Mais on parle beaucoup de Pierre-Édouard Sterrin, qui est souvent présenté comme étant un milliardaire ou un millionnaire ultra-conservateur, c'est le terme qui est utilisé par les médias, et qui aurait donc derrière plutôt un agenda politique. Il se servirait de ce canon français qui le finance, et je sais pas, quelle est sa participation ?
En fait, il est rentré au capital, il a 30% des parts, et il est rentré pas en direct, il est rentré via un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement, c'est purement business. Il a son projet politique qui s'appelle Patrimoine Enraciné ou je sais plus quoi, mais c'est une autre entité qui n'a rien à voir avec le fonds avec lequel on travaille.
Vous avez des rapports avec lui ou pas ?
Jamais, non, on l'a jamais vu.
On l'a jamais vu. Et puis en fait, ce qu'on aimerait que les gens comprennent bien, c'est que les patrons du canon français, c'est nous. Personne. Enfin, le jour où quelqu'un viendra nous dire ce qu'il faut faire dans nos événements, ce jour n'est pas arrivé. Ils ont aucun droit de vote, aucun pouvoir d'ingérence en fait sur notre entreprise. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait des événements.
Voilà.
Eux, ça fait 1 an qu'ils sont rentrés dans notre capital. Ils vont probablement ressortir dans 3-4 ans. C'est le principe d'un fonds d'investissement. Et nous, on a toujours fait nos événements comme on les fait aujourd'hui, comme on les faisait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est encore une fois un faux procès, mais on les collectionne, les faux procès.
Abel.
Hormis faux procès, donc c'est un mouvement que vous avez lancé au sortir du Covid. Alors est-ce que, parce que votre argument, c'est beaucoup de dire que vous ne faites que de l'événementiel, chose qui est vraie en l'état, mais est-ce que vous vous considérez, on dirait juste comme des personnes qui comblent un besoin de se retrouver après une période Covid où on a été confiné, ou est-ce que vous assumez quand même aussi de faire la promotion d'une certaine France traditionnelle, et c'est pas une injure de le dire, c'est pas péjoratif du tout. Est-ce que ce côté-là est assumé, une certaine tradition, une certaine image de la culture française ?
Alors nous, on a en fait, le canon français, c'est une création originale qui en effet vient chercher des inspirations aussi bien dans les fêtes de Bayonne que l'Oktoberfest de Munich. On aime le terroir, on aime les régions de France parce qu'elles sont magnifiques et qu'il y a des gens merveilleux qui font vivre ce terroir. Mais
la chanson française.
Et la chanson française, etc. Mais on se donne pas d'objectif si ce n'est de proposer des événements de qualité. On va manger des produits locaux. Le seul peut-être but qu'on se donne, c'est de faire travailler les agriculteurs, les producteurs, etc. Donc
en local. Au maximum, nous on va aller chercher des producteurs qui sont pas loin de notre fête pour essayer de favoriser une espèce d'économie de circuit court. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de nos valeurs. Donc oui, il y a un attachement fort à la production française, aux agriculteurs, aux vignerons, au soutien évidemment. Et là où on trouve que c'est très grave, c'est que maintenant les attaques, elles ne concernent plus uniquement nous, parce que nous on est quand même menacés de mort très régulièrement.
Vous-même ?
Oui, depuis des mois. Là, on lit sur les réseaux sociaux, on va vous brûler au lance-flammes, on va vous faire une deranque. Donc c'est pour ça qu'on est là.
On va vous faire une deranque.
On va vous faire une deranque.
C'est le nom du jeune qui a été tué à Lyon.
C'est ça.
Donc vous êtes assimilé.
On est assimilé comme
nationaliste extrême droite, quoi.
Exactement. Et en face, c'est repris par des politiques de premier plan. Et nous, on trouve ça gravissime parce que et maintenant ils veulent menacer les artistes et on sait où ça va quand on menace.
Il y a des députés qui voudraient vous interdire. Il y a un sénateur, le sénateur socialiste Jean-Luc Fichet, qui l'a dit d'ailleurs cette semaine à l'Assemblée nationale, il voudrait l'interdiction des banquets du canon français.
C'est gravissime. Et donc des militants reprennent ça en disant on va interdire les artistes de jouer dans le canon français, on va interdire les boulangers de fournir le canon français. Donc maintenant ils font des raids numériques, ils envoient des emails, ils menacent des personnes qui travaillent avec nous. Donc en fait c'est en train de prendre des
proportions énormes. Vous avez un service d'ordre le soir?
Ah oui, mais toujours au banquier. Toujours, nous, bien
fait,
sûr,
ce qu'on déplore aussi, c'est que en fait ça fait 5 ans qu'on fait des événements partout en France. On a réuni plus de 100 000 personnes dans nos événements. Et si c'était comme on le lit dans la presse, des torrents de haine, des troubles à l'ordre public ou des réunions de néo-nazis, ça saurait, on n'arriverait pas à revenir, on n'a aucune difficulté à revenir dans les villes où on a fait des événements. Et on déplore aussi que très peu de journalistes se sont dit, plutôt que de reprendre le récit de ceux qui nous attaquent, se sont dit, tiens, ils ont fait tel événement dans telle ville, on va appeler les maires, on va appeler les parcs expo, on va appeler les salles pour savoir comment se passent nos événements. Et voilà, donc
ça se passe bien, sauf que maintenant il y a pression sur les maires. pour ne plus vous accueillir.
Oui. Ah oui, oui, il y a des pressions sur tous les gens qui travaillent avec nous.
Et c'est extrêmement liberticide.
On leur demande de se positionner.
C'est comme pour ça que vous avez écrit au ministre de l'Intérieur, vous avez écrit une lettre ouverte à Laurent Nunez. Pour lui dire quoi, précisément?
Bah, pour lui dire que, le droit de réunion est un droit de fondamental, quand même. Parce que là, c'est la liberté d'entreprendre aussi. Nous, on est avant tout des entrepreneurs, faut pas oublier. Mmh. C'est un droit fondamental, que la haine et le harcèlement sont évidemment condamnables et que nous, on en subit maintenant depuis des mois, depuis que des députés LFI nous ont mis une cible sur nous. Ça a excité des groupuscules extrêmement violents et nous, ce qu'on a peur, c'est que ça commence à exciter d'autres groupuscules en face. Enfin, en fait, ça nous panique et on demande à...
Vous avez peur qu'un soir, un de vos banquiers soit infiltré?
Bah oui, c'est sûr que c'est une crainte, évidemment.
Donc vous cristallisez en fait la lutte entre les groupuscules d'extrême gauche et ceux d'extrême droite.
Ah mais c'est en train de devenir le champ de bataille d'une bataille politique, alors que ce sont des simples faits. Et encore une fois, on trouve ça extrêmement délétère. Juste avant l'émission, j'ai une dame qui m'a appelé parce qu'elle a lu un article et qui était à un autre événement en Champagne il y a deux semaines. Elle était outrée de lire ça parce qu'en fait, tous ces gens, les milliers de personnes qui sont venues dans nos événements, ils se sentent insultés, traînés dans les boues, et du coup, ça crée aussi un sentiment d'injustice. Et qui est extrêmement délétère pour tout le monde en venant exciter en fait tous les extrêmes de ce pays qui se servent du canon français pour en faire un champ de bataille idéologique et politique.
Antoine Dierce, Fatima Hidbounou ensuite. Antoine,
On vous sent fatigué et inquiet. On vous sent vraiment touché par la situation. Et effectivement, je trouve ça terrible. On aurait envie de vous dire de rester sur bravo pour la création d'entreprises, de jeunes entrepreneurs qui ont réussi, c'est sympa, etc. Et il y a tout ce truc qui vous tombe sur le coin de la figure. Et donc, franchement, je pense que c'est injuste. Je pense que c'est...
Nous, on le vit de manière injuste. Comme ça. Voilà. Nous, on est persuadé que c'est injuste.
C'est révoltant d'injustice.
Et je vais vous dire, et là, vous ne faites pas de politique, évidemment, mais c'est ma lecture de chroniqueur, je pense qu'il y a une espèce de racisme social autorisé. Il est autorisé de vous taper dessus, il est autorisé de dire que ceux qui vont dans ces banquets-là seraient des méchants, etc. Et que notre société tolère ça. On devrait tous réagir à gauche, à droite, et avoir des mots d'apaisement en disant mais non, mais chacun fait ce qu'il veut. On a encore le droit de faire la fête comme on veut. On a encore le droit d'aller où on veut. Et je vois une dérive assez grave de notre société où on est pointé du doigt pour avoir fait une fête franchouillarde, pour avoir chanté sur des chansons classiques du répertoire français. Et je pense que tout le monde devrait réagir, même ceux qui aiment pas particulièrement les fêtes que vous proposez, parce que c'est le début de la fin de la liberté de chacun.
Ça va même plus loin, puisque le recteur de la mosquée vous reproche de servir un repas qui exclut de fait les musulmans, puisqu'on y sert du porc.
Bah, quand je vous disais qu'on collectionne les faux procès, c'est encore une fois, bon, déjà, on a le droit de manger ce qu'on veut, nous, ce sont des grands événements, donc on n'est pas un restaurant, on ne fait pas des menus uniques, c'est des plateaux à partager, on sert 4000 personnes, donc on n'a pas de menu individuel, mais c'est encore un faux procès, parce qu'en fait, on sert autant de cochons qu'on a servi de bœuf, on a fait de l'autruche, on a fait de l'agneau, du canard, de la pintade, donc encore une fois...
Donc à la limite, ceux qui peuvent se plaindre, c'est les végétariens, surtout.
Alors, on en a qui viennent dans les banquets, ils ont le droit de venir, mais tout le monde est bienvenu, en fait, limite, nous, on s'adapte, nous, avant tout, on est quand même des entrepreneurs, donc si on commence à segmenter notre business en disant, on exclut telle personne, on va avoir moins de monde, donc même d'un point de vue économique, c'est pas intéressant pour nous de commencer à réduire le...
Du coup, vous répondez aux critiques du recteur de la mosquée de Paris, qu'on va écouter justement.
Le 18 avril, 4000 convives autour d'un cochon à la broche, un banquet présenté comme la célébration des valeurs françaises, en excluant symboliquement ceux qui ne ressemblent pas, pour rappeler aux autres qu'ici en France, ils ne sont pas chez eux.
Alors, qu'est-ce que vous répondez au recteur?
En fait, c'est comme à toutes les personnes, on comprend pas. Est-ce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que de venir politiser des fêtes, de venir, encore une fois, ajouter de la crispation sur des simples fêtes, certes, qui rencontrent un franc succès, mais en fait...
Si, parce que si on suit la logique du recteur, on est dans une bataille identitaire. Il vous reproche, finalement, de défendre l'identité française, qui serait uniquement que blanche, un béret, mangeant de la viande, voilà. Il
on n'est pas les...
L'identité française, c'est aussi des Français de confession musulmane.
Nous ne sommes pas un porte-étendard d'une identité française, parce que l'identité française, comme vous l'avez dit, elle est extrêmement large. La culture française, elle est extrêmement large. On fait partie de cette culture, c'est évident. Hein, c'est des événements culturels. Donc on n'a pas du tout de combat là-dessus.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Pourquoi ils viennent chez vous?
Bah parce que déjà on s'éclate dans nos événements, ça on oublie quand même souvent de le dire, mais
oui,
c'est la grande fête,
c'est
mange, on a des super artistes qui mettent le feu à chaque fois dans nos événements, et puis aussi ils y retrouvent aussi c'est des événements intergénérationnels, on peut y aller avec ses parents, ses grands-parents,
c'est une sorte de convivialité qu'on retrouve qui existait beaucoup à la campagne avant, qui peut-être existe moins, des banquets, des foires,
exactement. Astérix, il y a l'imaginaire d'Astérix qui joue évidemment beaucoup là-dedans, ça c'est sûr et certain.
Vous restez avec nous tous les deux, comme ça on va continuer la discussion. Fatima Aïdbounoua encore question, Antoine, Abel Boyi. On va juste passer par le Var, retrouver Johan qui est agriculteur. Bonjour Johan.
Oui, bonjour.
Bienvenue Johan, c'est vous qui avez gagné les vacances Bellambra.
Ben, c'est génial, merci.
Félicitations Johan. Agriculteur, qu'est-ce que vous faites dans le Var comme type d'agriculture?
Je fais de la pivoine.
La pivoine, magnifique, oui. Les pivoines. Mon cher Johan, vacances mer, montagne, campagne, vous avez une petite idée ou pas?
Oui, ça sera sûrement la montagne, oui.
Eh bien, profitez bien des vacances Bellambra. C'est un séjour d'une valeur de 2000 euros qui est en formule tout compris premium. Vous allez vous régaler. Bravo Johan, c'est votre fidélité au GG qui a été récompensée.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Et dans un instant, on continue de discuter avec les fondateurs du canon français, Géraud de la Tour et Pierre-Alexandre Mortemart de Boisse. Même si vous voulez intervenir avec eux, poser des questions, c'est au 32-16 que ça se passe. Abel Boyi, Fatima Aïdbounoua et Antoine Dierz vont prendre la parole face aux deux canons.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marina plongée nue dans un lac du Connemara. Jeune Kelly s'est dit, je suis catholique. Marine aussi, l'église en granit de Limerick.
Ah, il paraît que tous les banquiers du canon français, puisqu'on a les deux fondateurs qui sont avec nous, ça se termine avec les lacs du Connemara, c'est ça ou...
Très souvent.
Très souvent. C'est quoi les chansons stars vedettes du canon?
Les yeux d'Émilie. Un peu de tout.
Le chasseur de Michel Delpech.
Maître Gims aussi.
Maître Gims aussi.
Oui, là, sa reprise avec Vianney, celle-là, elle marche très très bien. Enfin, toute la variété française.
Des choses qui peuvent se chanter en groupe.
Voilà, et que tout le monde peut chanter, tout le monde connaît.
Tout le monde connaît le refrain.
Géraud de la Tour, Pierre-Alexandre Mortemart de Boisse, voilà les deux fondateurs du canon français. Fatima Aïdbounoua.
Moi, je suis toujours étonnée des polémiques 2026. Et j'ai l'impression qu'avec vous, il y a un peu. On assiste à la même chose que l'effet croustipoulet. Vous voyez, avec Krusty Poulet, il y a eu cette polémique où finalement, ça a fait énormément de pub à Krusty Poulet. Et vous, j'ai entendu parler des banquiers par la polémique. J'aurais jamais entendu parler des banquiers sans cette polémique-là. Donc, finalement, il y a un effet stressant un peu nouveau. Et c'est pas la rumeur, mais c'est le côté, la critique qui finalement vous fait de la pub. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous demandez dans votre charte, justement? Vous dites qu'il y a une charte et tout ça.
Oui.
Qu'est-ce que c'est? Et après, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit le recteur de la mosquée.
Vas-y, au contraire, bien sûr.
Moi, j'ai entendu le recteur de la mosquée, mais écoutez, autour de moi, j'ai aucune personne musulmane qui était en train de dire « Oh, je me suis sentie exclue, j'aurais tellement voulu être... » Si vous voulez aller dans un banquet et même ne pas manger la viande, on peut aussi y être et ne pas manger de porc. Donc, j'ai l'impression qu'on fait des symboles un peu de tout et qu'on est... La population est un peu prise en otage de ça.
C'est fait instrumentaliser, quoi.
C'est un peu du même ordre que l'expression dans l'émission de France 2, cette expression « Attention, il ne faut pas dire l'expression le chemin de croix », parce que les auditeurs vont se sentir exclus, alors que les auditeurs musulmans ou autres, ou juifs, n'ont rien demandé, ne sont pas en train d'être choqués par ça. Donc écoutez, toute cette polémique...
Des polémiques qui n'en sont
pas. Non, mais c'est des polémiques qui en sont pour les médias et pour les politiques, mais pour les gens sur place, je ne suis pas sûre. Revenons à la première question initiale,
votre charte.
Qu'est-ce que vous dites pour assurer la sécurité et éviter les débordements racistes, par exemple?
Notre charte, en fait, elle rappelle juste les règles basiques de vivre ensemble et de bonne conduite. Donc de respecter le matériel, de se respecter les uns les autres, de ne pas s'insulter. Il y a de l'alcool évidemment, donc faut être vigilant. C'est pour ça qu'on a un service de sécurité. Évidemment interdit au racisme, de pas venir avec des trucs de militants politiques quels qu'ils soient. Donc nous, si on le voit, on leur dit non. On leur confisque à l'entrée et ils leur partent avec si jamais ils ont un truc, un machin. Mais globalement, c'est très rare que ça arrive.
Ça arrive
Jamais, quasiment jamais en fait. Parce que les gens, globalement, 99% des participants, ils sont extrêmement respectueux. Ils viennent pour faire la fête, pour passer un bon moment. Et en fait, parfois même notre service de sécurité, bon, bah, ils circulent dans les allées. Ils indiquent où sont les toilettes, quoi. Hein.
Mais est-ce que vous craignez pour la survie de ce que vous avez réussi? Parce que c'est avant tout une réussite française, le canon français. Vous avez lancé quelque chose qui marche très bien, qui répondait à une demande, effectivement, de gens qui veulent se retrouver faire la fête et autres. Mais est-ce que vous vous dites, face aux menaces de mort que vous recevez, aux appels au boycott, à des sénateurs, des députés qui disent il faut interdire, la pression qui s'exerce? Alors pour l'instant, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, vous a répondu, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, mais je reste vigilant. Donc on voit même que le ministre de l'Intérieur commence à être un peu
il a précisé qu'il restait vigilant parce qu'il y avait des manifestations qui s'organisaient contre nos événements.
Mais est-ce que vous craignez pour votre entreprise?
Bah, ça inquiète évidemment, même si on a un soutien populaire énorme. Donc là, on parlait de nos prestataires qui nous font menacer, mais on reçoit que des messages de soutien. Les gens, en fait, ça fait 5 ans qu'on fait des événements. Les gens nous connaissent. Si on était des nazis, ça saurait. Enfin, je veux dire, on a fait deux banquets au Salon de l'Agriculture. Les organisateurs du Salon de l'Agriculture sont néo-nazis, peut-être. En fait, les gens nous connaissent, les vrais gens, le monde réel nous connaît.
Donc, heureusement, votre chance, c'est le soutien de tous ceux qui participent au canon.
Exactement. Et on demande aussi à tous les maires qui reçoivent beaucoup de menaces de ne pas plier à cette logique libérale.
Attends, juste une chose, parce que vous voyez, je regardais en même temps. Vous avez un banquet qui est prévu à Parquet Mêlé, je crois.
Oui, Parquet Mêlé, oui.
Parquet Mêlé, pardon. Le sénateur vient d'interpeller le préfet d'Indre-et-Loire. Vous le saviez?
Alors que non, c'est la deuxième année.
Non, on vient de. Ça, à l'instant, le sénateur local, puisque vous devez faire votre banquet, le sénateur interpelle le préfet en lui demandant d'être vigilant. Ben, je sais de trouver l'article.
Comment il s'appelle?
C'est le sénateur Roiron.
Voilà. Alors que vous voyez, c'est la deuxième année que nous faisons un événement à Parcémélé, et il s'est tous extrêmement bien passé. Pierre, il y a des villes, ça fait 3 fois qu'on revient. Donc en fait, ce sont ces personnes-là qui reprennent un peu la campagne de harcèlement que nous subissons,
socialistes
violentes, qui viennent en fait ajouter à cette crispation. En fait, ils reprennent cette campagne, encore une fois, vraiment ultra violente.
Ils ont fait de vous les épouvantails pour justifier.
C'est ça. Je ne sais pas quel est leur but.
Ça permet aux sénateurs de se faire un coup de pub.
Mais je pense que c'est malheureux d'en arriver là, mais peut-être seriez-vous contraint peut-être de refaire un communiqué, une communication, parce que
attends, mais c'est même pas à eux de se justifier. Ils ont rien fait.
Déjà, j'ai commencé par dire que c'était malheureux, mais je pense qu'aussi la présence de Monsieur Sterrin, qui est minoritaire, en fait, actionnaire minoritaire, on le présente comme s'il était limite le propriétaire, mais c'est quand même quelqu'un de sulfureux dans son genre, qui a pu dire qu'il est plus à droite que l'extrême droite. Ne pensez-vous pas que, au-delà de ce que vous êtes vous, son image à lui a un impact négatif et plus crispé?
On est obligé de le constater, en effet, parce qu'on fait beaucoup attaquer là-dessus. Mais en fait, on a l'impression d'un peu de crier dans le désert, parce qu'on s'évertue à expliquer le fonctionnement de cet actionnariat. Et c'est qui est très rarement repris dans la presse, etc. On a l'impression que ça les intéresse pas, et plutôt que de reprendre ce qu'on essaie d'expliquer, le fait que nous on se sent un peu insulté parce qu'on est très fiers de notre réussite, on n'a jamais demandé d'argent.
C'est une vraie réussite commerciale, quoi, en plus.
Ah oui, on est parti de rien.
Vous êtes parti en investissant combien tous les deux?
1000 euros chacun.
1000 euros. Et aujourd'hui, votre boîte, elle vaut
beaucoup d'argent.
Beaucoup
d'argent. Voilà. Et c'est pour ça, s'il y a des investisseurs qui veulent racheter les parts de Monsieur Sterrin, ils peuvent discuter avec lui.
Voilà, l'appel est lancé.
Voilà.
Ah oui, bien sûr, n'hésitez pas.
Nous, si vous voulez, on est ouvert. Enfin, voilà, on est ouvert à d'autres investisseurs. Voilà, c'est.
Vous savez qu'avec ce fonds d'investissement, les seuls échanges qu'on a eus, c'était quelles sont vos charges, quelles sont vos marges, quels sont vos chiffres d'affaires. Il n'y a jamais eu une seule début de discussion politique. C'est pour ça que c'est, encore une fois, vraiment.
Alors, attends, on va aller dans l'Indre, du côté de Châteauroux. Bonjour, Boris.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes pompier. Vous connaissez le banquet ou pas, alors, le canon français?
Oui, je connais. Donc, du coup, on est une bande de 9 collègues et on suit le canon français depuis Bourges. On les a découverts, en fait. Et du coup, je voulais quand même témoigner parce que après tout ce qu'on écoute avec nos collègues, là, on est sur la route, on vous écoute, les grandes gueules. On trouve pas ça juste, en fait.
Racontez-nous ce qui s'y passe alors, puisque vous participez au canon.
En fait, le canon français, c'est la culture française, il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'il faut mettre en avant, c'est surtout en fait, qu'il faut marcher tout ce qui est les agriculteurs, les commerçants locaux et autres, donc, dont les artistes aussi. Donc en fait, il n'y a aucun souci, quoi.
Et vous allez y aller ce soir à Montélimar?
Alors, on est en route là, pour Montélimar, on s'est arrêté sur une aire de repos pour vous parler.
Quand il y a un journaliste qui dit, c'est journaliste de France Inter, qui à Caen a vu des gestes qui s'apparentent à des saluts nazis, des propos racistes. Vous l'avez constaté, ça, vous aussi?
Bah, moi, en Cibanté, j'ai jamais vu ça. Donc, à part des gens qui sont contents d'être là, qui chantent, qui montent sur les bancs, qui se font faire engueuler parce qu'il faut pas monter sur les bancs, mais sinon, le reste.
Mais pourquoi? Donc, vous êtes là pour faire la fête, si je comprends bien.
Bah, on est là pour faire la fête. Si on fait pas, on fait pas 600 km, voilà, c'est pour faire la fête. Bah oui. Là, on va faire le banquet vendredi, et après, nous, on va visiter à chaque fois la région où on se trouve, quoi.
Alors, bah, Boris, on a Xavier qui veut intervenir, qui est du côté de l'Allier. Bonjour, Boris, Xavier, pardon.
Bonjour à tous.
Vous avez été à Béziers, vous?
Ouais. Je vais essayer d'être rapide. Moi, j'habite en ruralité. On est une bande de potes. On adore les fêtes de village. Moi, j'ai grandi dans un village de 300 habitants. Et pour les 50 ans d'un ami, on lui a offert un banquet. On savait pas ce que c'était. On est allé à Béziers. Et là, franchement, j'ai été choqué, quoi. Moi, déjà à l'entrée, les services d'ordre, il y a pas quelqu'un de racisé, parce que normalement, dans toutes les grandes manifs, on voit des gens racisés. Bon, bref.
D'ailleurs, de noir.
Ça veut dire quoi, racisé? Parce que c'est insupportable. Voilà.
Ouais, bon, vous pouvez dire de noir, d'arabe, voilà. De personnes d'origine asiatique, voilà. Y a pas de problème.
Tout à fait. Du coup, on rentre. Moi, j'ai fait les fêtes de Bayonne, comme je vous dis, la fête de la bière à Munich, comme on dit au pays, moi au village, des fêtes intelligentes. J'ai jamais écouté tant de fois la Marseillaise. Voilà, c'était un peu bizarre, un peu. Moi, c'était ça m'a surpris. Bon, bref, je suis patriote. Hein, là, je reviens de les commémorations. Moi, il y a pas de souci. Mais dans ce lieu, ça me paraissait bizarre. Après, il y a beaucoup de gens, le foulard des fêtes de Bayonne. Au lieu de le porter autour du cou, il le porte autour du bras. Moi, j'ai jamais vu ça dans les fêtes de Bayonne. Autre point.
Il y a des cons partout.
Oui, non, mais je dis pas. Moi, ma position, c'est pas d'interdire, c'est d'informer les gens pour que des gens comme moi qui ne sont pas dans cette philosophie n'y aillent pas. Voilà, parce que moi, j'étais très mal à l'aise et puis j'ai pas fini le truc, quoi. Donc voilà. Après, pour revenir, j'ai entendu des choses aussi qui m'ont déplu, bien sûr.
Hein, quoi, par exemple?
Bah, il y a une anecdote. Alors, je vais vous dire la plus rigolote. On est tous sur les mêmes tables, donc on discute un peu avec ceux de droite, gauche. Bon, c'est vrai que là-dessus, c'est ils essaient que ça soit convivial. Et il y a le collègue d'à côté qui dit moi, le jour avec Momo, et là, un grand blanc, un grand silence, et la personne s'est sentie obligée de préciser, mais c'est Morgane, je voulais dire. Vous voyez, il y a. Alors après, voilà. Moi, je viens d'un petit village. Pareil, tous les repas autour du cochon. Moi, je veux bien hein, que ça soit. Mais moi, je viens de petits villages. Les fêtes de village, que ça soit des amicales laïques, les foot, les pompiers, tout ça. Chez nous, globalement, c'est des méchouis. C'est des méchouis, c'est du mouton.
Bah oui, mais chacun peut faire ce qu'il veut aussi.
Mais on peut tourner. Moi, je suis le premier à défendre le terroir français, je vous le promets. Voilà, je suis écolo, moi, j'ai pas peur de le dire, je suis de gauche. Voilà,
vous avez bien compris. Moi, je pense que vous êtes dans une opposition idéologique, là.
Xavier,
j'ai pas entendu de choses très probantes. Non, mais je vous laisse parler. Mais c'est pas très précis ce que vous décrivez.
Allez-y.
Je finis. Donc, moi, je défends mon terroir. Des fêtes de village, je peux vous dire. J'en ai fait depuis l'âge de 15 ans, je suis dans les fêtes de village, dans ma rue. C'est à base souvent de moutons. Moi, qu'on défend le terroir, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi quand on va en Bretagne, on fait
soit à base de moutons?
Bah, c'était comme ça chez moi. Après, chez vous, c'est peut-être d'une autre manière. Laissez-moi.
Alors, attendez, justement, il y a des petites critiques là qui ont été mises par Xavier. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre?
On a déjà fait d'autres produits que le cochon. On a déjà répondu là-dessus tout à l'heure. On était à Agen l'autre jour. On a fait de l'agneau de 7 heures avec des magrets de canard et des cœurs de canard braisés au bras zéro. On a fait des cuisses de grenouilles, enfin, on a fait plein de menus différents, donc
Et puis, c'est les témoignages qu'on entend, encore une fois, nous on a reçu plus de 100 000 personnes dans nos événements. Parmi les 100 000 personnes, on les connaît pas tous. Mais on a beaucoup d'autres témoignages, donc, qui vont totalement à l'inverse, où il y a eu des belles rencontres, des choses ultra positives, etc. Non, donc,
dernier mot.
Rapidement.
Dernier mot, parce qu'on parle beaucoup, là, le cochon revient. Vous savez, c'est amusant. On dirait que le cochon, c'est la kryptonite du musulman. Que s'il y a un cochon dans la pièce, à la limite, on va dire Peppa Pig, je vais faire une attaque cardiaque ou porciner. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais d'autres gens mangent du porc, et quel est le problème?
Non, mais surtout qu'on n'a jamais été attaqué par les musulmans.
Non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai jamais entendu autour de moi des gens en train de se dire « Oh là là, il faut les empêcher de manger du porc, car je me sens exclu. » Mais manger du porc, si vous avez envie de manger du porc, je comprends même pas le débat. Quoi.
Dans vraiment, tous les cas, merci à
Peppa
Xavier.
Pig, et regardez Peppa Pig.
Boris, d'être passé par le 32-16.
Mais l'appel est lancé. Ceux qui veulent reprendre les 30% de M. Sterrin, je vais prendre.
Et puis on fait aussi un appel à tous les représentants, notamment le ministre. de l'intérieur et puis tous les responsables politiques locaux et nationaux, nationales,
un appel au calme.
Un appel au calme, mais surtout, oui. On demande au ministre de nous défendre nos événements, ouais. Parce qu'encore une fois, on se fait vraiment attaquer. Donc on demande.
Donc à la fois une protection et il faut que la tension redescende. Voilà. Ouais.
Et n'oubliez pas que avant qu'on se fasse attaquer par ces personnes qui sont extrémistes et qui sont sans foi ni loi, honnêtement, tout se passait très bien. On parlait pas de nous et pourtant on faisait autant d'événements et on rassemblait autant de monde.
Donc merci d'être passé, Giro de la Tour et Pierre-Alexandre Mortemart de Bois. Ce soir, c'est à Montélimar. Merci. Bonne fête. Du canon français ce soir du côté de la Drôme à Montélimar. Merci messieurs.
Merci beaucoup.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Ouais, il y a pas mal de réactions là qui sont arrivées sur l'appli RMC, sur l'onglet Direct Studio. Alors c'est notamment Christophe qui dit attention, votre site le canon français, peut-être qu'il est victime de son succès, il est planté. On a Aragon qui nous dit à quand les participants. Bah moi j'ai entendu des choses qui n'étaient pas très belles. On a aussi Joe qui lui dit bah oui, ils ont raison, on défend l'ambiance à la Astérix, on défend le banquet. C'est plutôt sympa et je leur fais confiance pour mettre dehors tous ceux qui pourraient contrevenir à la charte. On a Eric qui dit dites donc, aujourd'hui les GG, qu'est-ce que ça veut dire le canon français? Quand on regarde l'affiche, moi je m'interroge, est-ce qu'ils sont quand même pas dans une démarche politique et patriotique? Et puis on a une autre réaction, celle de Joe qui lui se demande le canon français, vous allez voir que d'ici quelques semaines, ce sera victime de LFI.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, c'est fait pour vous, les grandes gueules. C'est avec vous au 32-16, bien sûr, pour discuter, pour débattre. Fatima Inouzoua, la prof de français, est là, tout comme Antoine Diers, le consultant juridique, et Abel Bouilly, l'éducateur. Dans un instant, on va évoquer ce que veut le ministre de l'Éducation nationale. Désormais, les élèves qui rendent des copies mal rédigées avec des fautes de syntaxe et avec des fautes d'orthographe, eh bien, elles pourraient être éliminatoires pour le bac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. Mais avant de se lancer dans l'histoire du bac, on a Josiane qui est avec nous. On avait lancé un appel. Y a-t-il encore des Josiane en France? C'est Josiane de Haute-Vienne, du côté de Limoges, qui est directrice administrative et financière. Bonjour Josiane.
Bonjour tout le monde.
Excusez-moi,
c'est ma première fois à l'antenne, donc...
Alors Josiane, vous écoutiez les grandes gueules ou on vous a averti et on vous a demandé de téléphoner au 32-16, dites-moi.
Non, j'écoutais les grandes gueules puisque je suis sur la route là, donc j'ai mis la radio, j'ai entendu et je me suis dit tiens.
Bon, alors du coup on s'est un peu moqué du prénom Josiane, voilà. C'est Antoine, vas-y.
Est-ce qu'on peut vous demander quel âge vous avez, Josiane?
Oui, j'ai 36 ans.
36 ans,
ben voilà.
Effectivement, nous avons trouvé une jeune Josiane. J'ai regardé sur internet, il n'y en a pas beaucoup, c'est
non,
un prénom
beaucoup,
très
non.
peu donné.
Mais ça va revenir. Est-ce qu'on vous appelle Josie?
Ah ben oui, c'est régulièrement, pas grand monde, enfin, si, au travail, on m'appelle Josiane, mais...
Sinon, c'est Josie.
Sinon, en famille, c'est Josie, Joe...
Et là, vous partez pour le week-end un peu?
Oui, on part pour le week-end voir la famille.
Mais Josiane, au fur et à mesure, vous avez grandi, est-ce que vous êtes dit, quand même, j'ai un foutu prénom ou pas?
Ah ben si. Ah ouais. Je me suis dit, mais pourquoi on m'a donné ce prénom? Quand j'étais petite, je voulais m'appeler Joe. Il y avait interdiction de m'appeler, Josiane.
Et pourquoi Josiane alors?
Oui, c'est vos parents.
Ce sont mes parents qui me l'ont donné. Je suis d'origine camerounaise et donc en Afrique, de manière générale, les anciens prénoms sont couramment donnés.
Des prénoms du calendrier.
Français sont couramment donnés et c'est une preuve. Enfin, je sais pas. C'est une marque de. J'en sais rien d'ailleurs.
Avez-vous un deuxième prénom que vous avez pu utiliser pour faire barrage à Josiane?
Non. Mon deuxième prénom, c'était Joe.
Ah, mais c'est très beau, Josiane.
Et est-ce que vous en avez croisé d'autres, mais Josiane.
Jamais, je n'ai jamais croisé d'autres Josiane à part des personnes plus âgées.
En maison de retraite.
Oui, les plus âgées. Oui.
Peut-être qu'on va lancer un mouvement, vous savez. Ça va revenir.
Josiane, voilà.
Oui, mais c'est régulièrement qu'à la radio, j'entends la Josiane de la compta. Je dis oui, effectivement, c'est vrai que je suis dans l'univers de la comptabilité, mais bon, faut pas abuser,
c'est
quoi.
C'est un peu péjoratif. Josiane, merci de l'avoir pris. Merci de l'avoir pris avec humour. On vous envoie un t-shirt DGG. Je vous embrasse, Josiane.
Merci
d'avoir été dans les grandes gueules.
Au revoir, Josiane.
Revenons maintenant aux affaires éducatives avec notre amie Fatima Hidbounois. C'est une interview du ministre de l'Éducation nationale donnée au Figaro et il insiste sur la syntaxe et l'orthographe.
Oui, il l'avait dit d'ailleurs ici même dans les grandes gueules face au GG, il avait dit que la rentrée, cette rentrée, ça sera d'ailleurs sa seule rentrée puisque a priori il ne sera plus ministre dans quelques temps, sera sous le signe de l'exigence aussi bien pour le baccalauréat que pour le brevet et notamment sur le niveau d'orthographe. Alors c'est amusant quand même parce que ça fait quand même des années que certains disent le niveau baisse, et ça fait des années que les spécialistes d'éducation disent non pas du tout, ou les politiques disent c'est pas vrai, arrêtez de dénigrer l'enseignement, ça ne baisse pas, ça ne baisse. Là on a le ministre lui-même qui reconnaît qu'on manque d'exigence et qu'il va falloir en mettre un peu plus, notamment sur l'orthographe. Donc ça fait du bien déjà, parce que quand même il y en a beaucoup qui se sont fait engueuler depuis des années pour avoir dit tout simplement qu'il y avait un problème de niveau scolaire, et d'ailleurs on le voyait quand on est parent, simplement en regardant la copie des enfants. Donc là, ça veut dire quoi, toi qui es prof, l'exigence, comment concrètement vous allez faire?
Moi, j'attends de voir ce que ça implique derrière l'annonce, parce que je dis enfin, merci. Ici même, je vous avais dit à quel point j'avais été choquée il y a quelques années, lorsqu'on parlait du passé simple en formation. Hein, et donc moi, je demandais à mes élèves d'apprendre le passé simple, à conjuguer. Et on avait dit non, mais il faut qu'ils aient la sensation du passé simple. Et même, on nous avait dit, seulement la troisième personne, celle qu'ils utilisent le plus. Un rapport vraiment très utilitaire à la langue. Ça m'avait vraiment, comment dire, ça retirait du sens à mon métier. Donc je suis contente là qu'on reparle d'exigence. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on ne réduise pas. C'est pas qu'une question d'orthographe. Le gros problème qu'on a, c'est une question de structure de la pensée. Parce que l'orthographe, c'est pas la décoration. Parce que très souvent, on veut nous caricaturer. Oui. Ou même les gens disent, ah, j'ai fait des fautes d'orthographe. Si c'est une petite erreur, un petit oubli, une petite coquille, c'est pas grave. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'enfants qui ont une pensée complètement déstructurée, de phrases qui commencent à la ligne 1, qui vont finir à la ligne 25, sans aucune ponctuation, ni virgule, ni point. Imaginez l'état de la pensée, et qu'on ne comprend pas. Donc c'est l'idée d'être... Donc enfin, on se dit, cette copie-là, on va dire, il y a un problème quand même. On va mettre un stop. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit cohérent.
Mais est-ce qu'il y avait des consignes d'être
Bien sûr, normalement, pour le brevet, et pareil, j'étais venue ici pour vous dire pour le brevet, normalement, on devait pas retirer plus de, on va dire, allez, sur une rédaction, il y a plein de critères, donc on doit suivre les critères. Et l'orthographe, si c'est 3 points, donc une copie qui est complètement, qui a énormément de fautes d'orthographe, ne devait pas être pénalisée plus que ça. Donc que j'attends...
Donc c'est pas plus de 3 points en moins s'il y a des fautes à tous les mots.
Ça va être ça, ça dépend du barème. Mais s'il y a un barème d'une rédaction...
Là, on risque de passer de 80% d'obtention au bac
voilà.
À 7%.
J'attends, qu'est-ce qu'ils mettent derrière l'effet d'annonce? Donc je vous le dirai ici, parce que je vais corriger le brevet. Donc j'attends correction du brevet, j'attends de voir les consignes de correction. Alors, et ce qu'ils vont vous dire, mais s'ils appliquent, je peux vous assurer que les statistiques vont baisser.
Mais tant mieux. Est-ce qu'il a raison le ministre?
Non, mais pour moi, c'est une fausse bonne idée. Tu me diras ce que tu en penses, Fatima, mais donc, faut attendre la troisième que l'élève ait accumulé des années de fautes d'orthographe pour dire on va le sanctionner.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui a fait 2 mesures géniales. Faut que les élèves commencent à 9h au lieu de 8h et maintenant, faut sanctionner les fautes d'orthographe. Il ne travaille pas à l'idée peut-être d'une réforme du système scolaire tout entier, c'est-à-dire que une indépendance
temps, là,
des établissements.
Est plus là.
Bah oui, mais d'accord, mais il n'a pas de vision. Je pense même pas que c'est dans son esprit. C'est-à-dire que selon les territoires, t'as des établissements où, par exemple, les élèves, tu fais cours le matin, activités sportives et culturelles l'après-midi. Tu as d'autres établissements où tu restes sur le système actuel parce que peut-être ça fonctionne et tu remets le cérémonial républicain. Je suis désolé, tout est lié et surtout tu fais en sorte que l'élève puisse se dire mon bahut c'est le mien. C'est ce qu'on disait quand on était petit. Aujourd'hui, l'élève, quand il va à l'école, c'est pour dire mon quartier à l'extérieur, c'est le mien.
Moi, ce que je veux pas, c'est pas mon bahut, c'est le mien. Moi, ce que je veux, ce qu'ils se disent, c'est cette langue, c'est la mienne.
Oui, mais c'est
ça
lié.
Veut dire habiter sa langue. Non, mais vous rendez pas compte combien, même pour la violence, quand on a des mots pour se dire, il y a moins de violence. Quand on a des mots pour se dire, il y a moins de violence à l'intérieur et à l'extérieur. Donc vraiment,
on
le
en
côté,
est
cette langue, c'est la mienne. On
oui,
en est
mais
convaincu.
Y a une
on néglige la question de la langue, on réduit ça au côté de l'orthographe. Mais c'est vital.
Oui, mais il y a une réforme pédagogique plus globale que sanctionnée.
Qui était bon en orthographe ou pas, Antoine?
Moi, j'ai longtemps eu du mal à avoir une orthographe correcte, mais je l'ai finalement obtenue à force de retrait de points, à force de sanctions. Et donc, ce que dit le ministre, c'est le retour de l'exigence. Mais en fait, c'est juste normal. Et je trouve quand même qu'on a du mal à comprendre la trajectoire de ce ministre, puisque il y a quelques semaines ou quelques mois, il nous disait que les classes de niveau c'était pas forcément bien. Donc je comprends pas. Soit on décide qu'il faut remettre de l'exigence dans l'éducation nationale, et donc on y va franchement, de manière très claire, sur l'orthographe, sur des classes de niveau, sur l'autorité de l'enseignant, soit il fait encore une énième déclaration pour meubler un peu et donner l'impression de faire quelque chose. Je pense que c'est plutôt ça.
Attends, juste sur la cohérence, ce qui est un peu injuste, c'est que là on le dit aux enfants et aux parents pour l'examen, alors que normalement, si on veut de l'exigence, c'est de l'exigence aussi dès le début dans la transmission.
Et dès l'école
primaire.
Parce que
si on a dit aux enfants, ce qui compte, c'est aussi la pensée. Bon, allez, c'est pas très grave. Tu perdras pas beaucoup de points. Et que le jour de l'examen, ils sont ultra sanctionnés là-dessus. Ouais. Ils vont sentir un peu les 2011 là qui passent le brevet. Ils vont sentir mal.
Samy veut intervenir. Bonjour, Samy.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Samy. Qu'est-ce que vous pensez de cette exigence vis-à-vis de l'orthographe, Alain?
Ben, je pense que c'est primordial dans un sens où c'est que moi, je me suis retrouvé à faire des dissertations où c'est que normalement, je devais avoir 18/20 et que je me retrouvais en fait que... Non. Ben, je pense que Madame Fatima connaît un peu le problème, c'est que je faisais ma dissertation. Mais je l'envoyais directement comme ça, en fait. Je ne me relisais pas.
Ah oui. Il n'y avait pas de brouillon.
Il faut toujours se relire.
Le passé composé, le verbe avoir, le verbe être, machin. Je ne faisais pas tout ça. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où c'est que j'étais responsable. Donc, il fallait que quand même j'envoie un message correct à mon patron, je veux dire. Donc, je prenais mon téléphone. Et je regardais si je faisais les choses correctement, si...
Et ça va? Et du coup, ça va maintenant?
Ça va dans le sens où c'est que oui, je fais... je me prends en main.
Mais Samy, juste
mais
un
savez,
truc.
Oui, sur, y a plein
je suis
d'adultes...
content de vous parler à tous, hein, on s'est vu à Toulon. Du Toulon, d'ailleurs.
Mais j'ai cru comprendre un peu à l'accent.
On va sous-estimer cette histoire d'orthographe. Moi, je parle à beaucoup.
Non, mais c'est très handicapant.
Voilà. Il y a beaucoup d'adultes.
Pour la progression professionnelle.
Exactement. Et il y a beaucoup d'adultes qui ont été humiliés aussi à cause de ça et qui sont des blessés de l'école à cause de ça. Parce qu'on a cru pendant longtemps, on leur a dit, ah, mais t'es un imbécile. Parce qu'il y a des fautes d'orthographe, des erreurs orthographiques. Mais si vous n'êtes pas accompagné, si on vous a pas expliqué pour relire, si on n'a pas
sans vouloir te couper avant ça, il faut une réforme pédagogique parce que l'éducation nationale, pendant des années, elle a évalué l'intelligence des enfants à travers le prisme des matières scientifiques. Et on le voyait même quand on passait un bac scientifique à l'époque, on était un beau gosse. Quand on passait un bac économique et social, comme il restait des maths et de l'économie, ça allait. Et quand on passait un bac littéraire, c'était tous les crasseux, les clochards, les philosophes qui fument du shit. Je caricature, mais c'était vraiment ça. Donc, il faut remettre, revaloriser les matières littéraires aussi.
Merci, Samy, d'avoir été avec nous. Vous aurez conclu notre discussion. Fin des GG, on se retrouve.
Il y a Charles qui arrive.
On se retrouve lundi entre 9h et midi.
Un baquel, Charles.
Bonjour, Charles.
Justement.
Mais oui.
Vous êtes horrible.
On va casser les clichés.
Réalité, tu sais très bien
comme chignon.
C'était vu comme ça.
J'ai passé un bac S avec mention.
Bravo.
Le bac des beaux gosses, vient de dire Abel. Je plus sois totalement. Dans un instant, une équipe de beaux gosses. Fred Hermel, Karine Galli, Jacques Legros. Ils vont s'installer autour de la table. C'est parti pour rester le minute.
Ah, pardon, j'avais entendu Karim.
Non, Karine Galli sera là. On va parler de la crise des carburants et ses conséquences.
T'es obsédé, toi.
Les Français, les Français roulent de moins en moins. Ça y est, on a eu les chiffres, moins 11% au mois d'avril. On roule moins, on se déplace moins. Mais dans le même temps, on prend beaucoup plus le train. Explosion aussi de la voiture électrique. Est-ce qu'au fond, c'est une bonne nouvelle? Le fait qu'on roule moins, est-ce que c'était le déclic qu'il nous fallait? Exactement. Est-ce que c'était le déclic qu'il nous fallait? On va parler des pressings aussi. Leur nombre a été divisé par 2 en 20 ans. Qui va encore au pressing? On va parler à Alain et Olivier, que je vois arriver tous les matins.
Impeccable,
avec des chemises et des costumes parfaitement repassés. Mais vous, est-ce que vous allez encore au pressing? Vont-ils disparaître? On va aussi parler de cette nouvelle plainte d'une association animaliste. Faut-il interdire les corridas? Bah oui, là, c'est on va ouvrir. Ah, ça y est, saison, les plaintes se multiplient partout en France. Et le tu préfères, tiens, vous êtes peut-être sur la route là, du pont du 8 mai. Est-ce que vous préférez prendre l'autoroute ou les petites routes?
Ah, les petites routes.
Les petites routes.
Les petites routes. Les petites routes.
Ça dépend. Et
les
biro-
National 7.
Ça dépend. Bah oui, ça fait débat.
Elle est passée à la selle. Tant mieux.
Il vaut mieux.
Allez, bonne émission au 32-16.
On va mettre la barre.